Luc Trouche.
Je prends ce poste là.
C'est fait. Je t'ai débranché sans te le dire. C'est-à-dire, si tu avais dit dans ta réponse, par exemple, regardez sur le transparent, c'était pas bon.
Bon, ça marche là, oui. Alors, je suis pas informaticien, ça, on change. Et la présentation que je fais, elle est préparée avec Dominique Guin, avec qui je travaille sur les projets, à la fois les projets de développement de dispositifs dont je parlerai, et puis les projets de développement. D'intégration théorique. Alors, nous ne sommes pas informaticiens, nous sommes didacticiens des mathématiques, et en même temps, nous travaillons à l'interface, et même dans la communauté EIAH, des environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Je vois aussi qu'il y a une petite erreur dans le titre final, puisqu'il a disparu le point d'interrogation sur faciliter et intégrer les usages. Bon, mais de toute façon, poser une question, c'est aussi répondre. Donc, c'est pas très gênant. Alors, je vais faire une... dans cet exposé, une sorte de genèse de ce qu'a été notre réflexion théorique depuis un certain temps, disons depuis une dizaine d'années, en contact, en interaction avec l'approche de Pierre Rabardel et d'autres, cette approche qu'on a pu appeler approche instrumentale. D'abord, j'évoquerai les questions que pose l'importation d'une approche, qui n'est pas une approche développée en didactique des mathématiques, mais une approche extérieure, l'intérêt de cette importation et les limites. Dans un deuxième temps, je montrerai... le déplacement ou l'enrichissement ou la modification de cette approche fondamentale pour nous quand on s'est posé les problèmes de l'enseignement après s'être posé le problème de l'apprentissage, donc des questions de gestion didactique des instruments et du coup de l'approche sociale qui va avoir un certain nombre de conséquences et cette idée de conception dans l'usage qui va s'imposer comme nécessaire à toutes les étapes de notre travail. Or, j'illustrerai ça avec un développement autour de ressources pédagogiques qui n'est pas sans lien avec ce que Jean-Philippe a présenté à propos de scénarios, en montrant l'intérêt qu'il y a à appliquer cette approche, enfin utiliser cette approche instrumentale en considérant les ressources pédagogiques comme des artefacts. Donc, je montrerai une expérience et puis je conclurai en montrant les problèmes complexes que pose cette dialectique dont a parlé aussi Alain, à la fois intégrer et faire évoluer les usages. Bon, ça sera essentiellement des questions posées, hein, plus que des réponses, bien sûr. Pour donner le cadre de cette intervention, je repars d'une présentation très générale de ce qui, pour nous, a constitué au départ l'approche instrumentale avec cette rencontre singulière entre un artefact et un sujet. Alors, artefact, on peut en parler très longtemps. Quand on regarde les choses de près, enfin, ce qui nous est apparu, c'est que même les artefacts très simples, comme un marteau, tu évoquais, ils sont de toute évidence saturés de culture et de sens. Hein, saturés de sens, où, dans le sens où Vygotsky disait que les mots sont saturés de sens dans le langage intérieur. Bon, les exemples fourmis, hein, je citerai juste l'exemple que Marcel Mauss évoque à propos de la guerre 14-18 et des bêches anglaises et des bêches françaises, les bêches françaises ne pouvant pas être utilisées par les Anglais. Je n'ai pas un petit dessin, mais vous reporterez aux bonnes illustrations pour le voir. Et sur des objets aussi simples, saturés de culture, justement, il a fallu importer d'Angleterre des bêches en France pour que les Anglais puissent creuser leurs tranchées. Donc les artefacts, de toute façon, sont complexes. Il y a d'autres niveaux de complexité quand on aborde les artefacts informatiques, bien sûr. Alors Pierre Rabardel situe les artefacts comme des propositions pour l'action. Et en insistant sur deux processus du haut, dont Alain a déjà parlé, un processus d'instrumentation et un processus d'instrumentalisation. Le processus d'instrumentation par lequel l'artefact, sa configuration, les potentialités, les contraintes vont agir sur l'organisation de l'activité du sujet, sur la constitution des schèmes, j'en reparlerai, et l'instrumentalisation par lequel le sujet va mettre l'artefact à sa main et dans ce mouvement-là va profondément le transformer. Et les instruments sont ainsi des entités mixtes composées d'une partie de l'artefact. Hein, je reprends aussi ce qu'a dit Alain ce matin en parlant de grains et de périmètres d'un artefact qui varie suivant les individus. Entités mixtes composées d'une partie de l'artefact et de schèmes d'utilisation qui sont résultat d'une construction. Et Pierre Rabardel parle d'instruments subjectifs pour bien montrer cette partie essentielle de ce qu'est un instrument, de ce qu'a investi un sujet dans la construction dans un processus d'activité et de résolution de problèmes, de réalisation de tâches. Alors, sur ce premier modèle, notre réflexion a déjà modifier un peu le schéma, vous savez que les schémas sont importants, avec trois modifications essentielles. D'abord, il n'y a pas de symétrie entre homme et machine, il y a une dialectique, mais ce qui est premier dans notre observation, c'est évidemment le décours de l'activité d'un individu. Et ça, dans cette activité-là, la relation qu'il va entretenir avec un artefact ou des artefacts. Ensuite, il y a une dimension institutionnelle de l'activité, surtout dans un processus d'apprentissage. Hein, une institution, eh bien, elle va influer profondément sur l'activité avec son programme de travail, les règles, les tâches prescrites. Et puis ensuite, il y a une ambiguïté du mot Genèse. Bon, la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Hein, c'est dans l'idée de Genèse, il y a l'idée de début, l'idée de naissance. Mais il y a aussi une autre idée dans l'idée de Genèse, l'idée de processus de développement, de processus de formation. Et dans ces conditions, la Genèse n'est pas... Il n'y a pas une Genèse qui s'arrête pour donner lieu à un instrument, mais la Genèse se poursuit. Et c'est cette idée-là qu'il faut avoir en tête et qu'on a en tête quand on développe le travail d'intégration de cette approche en didactique des mathématiques. Cette approche instrumentale en didactique des mathématiques, elle intervient... La didactique des mathématiques est un domaine assez récent, mais c'est que dans les années 95, alors que l'étude des instruments, des artefacts est beaucoup plus ancienne, dans les années 95, est apparue l'utilité, la fécondité de cette approche, parce qu'on a eu affaire à des outils plus complexes à disposition des élèves et surtout à disposition en classe et à la maison. En 95, c'est là que des calculatrices complexes avec des logiciels de géométrie interviennent dans les classes, et donc l'appropriation n'est plus sous le contrôle exclusif du maître, mais les élèves vont avoir ces plateformes chez eux, dans le bus, avec les copains, etc. Et c'est aussi le moment où les études qu'on réalise ne sont pas des études en laboratoire, où on va étudier un prototype ou sur une classe avec des professeurs experts, mais on va réaliser des études sur le temps long et dans des classes ordinaires. Donc là, la relation qui se constitue entre un sujet et un artefact va devenir un objet d'étude complexe pour lequel cette approche va être particulièrement féconde. Bon, j'ai parlé d'importation, mais ce n'est pas vraiment l'importation d'un objet étranger, parce que cette approche instrumentale développée par Pierre Rabartel et d'autres est mise en œuvre dans la formation professionnelle, en didactique professionnelle, et il y a de nombreux points communs entre la didactique des mathématiques et la didactique professionnelle. La conceptualisation mathématique, elle se fait dans le cadre de l'action. Elle se fait dans le cadre de la résolution de problèmes. Bon, puis il y a aussi une autre base commune, une autre intersection très profonde, c'est la notion de schème. Hein, Pierre Rabartel fait référence à Vergniaud. Bon, Vergniaud se situe aussi dans le champ de la didactique des mathématiques et ce qu'il a développé en matière de schème comme organisation invariante de l'activité, comme repérage des invariants opératoires, théorème en acte, concept en acte, est tout à fait essentiel. Et donc, on a pu passer sans trop de difficultés des schèmes développés présentés par Vergniaud et déjà intégrés depuis longtemps en didactique des mathématiques aux schèmes d'action instrumentée. Et puis, il y a eu cette mise en œuvre d'une approche, au départ dans des environnements type calculatrice, puis après, ça a été repris en compte pour des environnements de logiciels de calcul formel, de géométrie, plus récemment de tableurs. Et on a pu voir dans une étude internationale qui a été menée dans le cadre du Conseil national de coordination de la recherche en éducation que ce type d'approche n'était pas spécifique à la France, mais avait débordé dans un espace international et était au cœur d'un certain nombre de programmes de recherche européens ou internationaux. Donc cette approche est intégrée et de façon féconde. D'abord, ça nous a ça portait notre regard sur les potentialités et contraintes des artefacts, celles qu'on voit directement ou non directement, bon, évidemment en relation avec la transposition informatique, quelle est l'architecture, quelle est l'interface, quelle est l'organisation, comment cette organisation préstructure de façon relative l'action des utilisateurs. Ça nous a permis aussi, ça a facilité des études fines de processus individuels de conceptualisation, ne pas regarder simplement les techniques, mais regarder les schèmes, c'est regarder l'activité sur la durée, essayer d'inférer à travers l'activité d'un élève ce qui était construit comme théorème en acte, comme concept en acte. Donc ça a eu un effet tout à fait fécond qui a donné lieu à des ouvrages de référence que je donnerai tout à l'heure. Ce qui est intéressant, quand on regarde maintenant avec un peu de recul ce qui a été fait, en particulier dans le livre qu'on a coordonné sur les calculatrices symboliques, c'est qu'il est essentiellement question d'instrumentation et très peu d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on va regarder essentiellement comment les artefacts influent sur l'activité des élèves. C'est tout à fait intéressant parce que ça rompt avec une vision de neutralité des artefacts, mais l'autre processus est très peu regardé. Et encore récemment, dans le symposium que Jean-Philippe évoquait de Montpellier en septembre, quand on regarde l'ensemble des contributions, on parle beaucoup d'instrumentation et assez peu d'instrumentalisation. Alors à cela, il y a plusieurs raisons sans doute. Il y a d'abord ce déséquilibre est peut-être lié à une ambiguïté de l'expression activité instrumentée. On parle d'activité instrumentée et on sous-entend que l'activité étant instrumentée, il y a les doubles mouvements qui se passent. On ne regarde pas la façon dont un individu est instrumenté, où ça va peser sur son activité, mais on regarde la façon dont l'activité évolue, et on regarde donc du coup assez peu l'évolution de l'artefact lui-même. Et puis, quand l'instrumentalisation est prise en compte, les mots sont très intéressants, et elle est essentiellement considérée, décrite, comme un détournement d'usage, en fait, une sorte de braconnage. C'est-à-dire l'élève va utiliser tel ou tel outil pour stocker des jeux, pour des théorèmes, pour faire ce que le maître n'a pas prévu, et donc pour en faire quelque chose de relativement extérieur, en tout cas marginal au processus d'apprentissage. Alors, en lisant récemment le livre d'Engström sur la théorie de l'activité, il reprend aussi cette idée d'une instrumentalisation fort peu prise en compte sans que ça porte ce nom, dans les écrits de Vygotsky et Leontiev, de l'école soviétique de psychologie. Et il explique qu'en fait, il y a toute une partie du travail de Vygotsky, de Leontief et d'autres qui porte sur la création d'artefacts, sur la façon dont les artefacts sont enrichis par l'activité propre des usagers, mais que ces écrits, ces aspects de leur travail scientifique a été relativement mis sous boisseau et ils ont réapparu après la perestroïka, après d'autres recherches qui ont mis l'accent, qui ont laissé émerger cette vision de l'aspect productif de l'activité des individus, des sujets, dans le processus de travail ou dans le processus de formation. Et alors, cette prise en compte de l'instrumentalisation dans notre genèse de chercheurs, elle est arrivée quand on s'est posé le problème de l'enseignement. C'est-à-dire on a suivi les processus d'apprentissage, les processus d'appropriation des instruments, et puis on s'est posé aussi le problème d'organiser l'apprentissage, d'organiser l'enseignement, pardon, dans des environnements complexes. Et on a été conduit à concevoir ce concept d'orchestration instrumentale qui nous a paru décisif pour désigner la gestion didactique des artefacts d'un environnement pour la mise en œuvre d'une situation donnée. C'est-à-dire qu'il y a un environnement, bien sûr, bon, Jean-Philippe en a parlé, enfin, il faudrait préciser dans quel sens on entend, c'est-à-dire un ensemble d'artefacts, enfin, un lieu réel ou virtuel qui offre des possibilités d'action et d'interaction. Une situation, pour nous, c'est une situation au sens mathématique, si vous voulez, un problème qui modélise d'une certaine façon une connaissance qu'on veut construire. Alors, en didactique des mathématiques, on a l'habitude de parler de mode d'exploitation des différentes phases de la situation, et nous avons pointé la nécessité d'intégrer dans cette pensée de l'exploitation didactique, pour concevoir un scénario d'exploitation didactique, des orchestrations instrumentales. C'est-à-dire cette gestion didactique, comment les artefacts sont intégrés, l'ensemble des artefacts, ça met l'accent nécessairement sur l'idée de système d'instruments pour un individu. Les genèses instrumentales ne sont pas singulières, elles sont toujours plurielles. Et de schèmes sociaux, parce que les instruments sont construits, pas seuls, mais avec d'autres. Et du coup, l'instrumentalisation, parce que quand on regarde comment l'activité des élèves, comment les élèves interagissent, comment la façon dont l'un construit un instrument agit sur la façon dont l'autre construit son instrument, eh bien ça impose de voir à ce moment-là l'instrumentalisation non pas comme un détournement ou un braconnage, mais comme un enrichissement possible des artefacts et une contribution de chacun et de tous au développement des instruments d'une certaine communauté. Et alors, donc cette idée d'orchestration nécessaire, de situation, de gestion complète d'une situation, ça aboutit à la nécessité de construire des ressources pour l'enseignant. Donc on passe à un autre niveau. On s'est intéressé ensuite, et pendant à des dispositifs de formation continue qui permettent d'accompagner les enseignants dans cette conduite d'une classe. Ce qui nous a conduit à préciser cette notion de ressources pédagogiques qui, sur le plan didactique, a beaucoup à voir avec ce que Jean-Philippe développait en termes de scénario. Donc un ensemble de documents donnant à un enseignant une ou des situations mathématiques, des éléments pour les exploiter dans un environnement technologique. Et une ressource pédagogique, on rejoint l'idée des artefacts, c'est en fait une proposition pour l'organisation du travail du professeur. On a pu en voir beaucoup d'aspects dans le récent colloque INRP sur la scénarisation, qui était coordonné par Jean-Philippe et Hélène. Et l'appropriation de cette ressource par le professeur, on passe à un autre niveau, si vous voulez, d'artefacts, c'est un processus complexe, où là, il va y avoir une modification de l'artefact à tous les niveaux, si on considère une ressource comme un artefact, avant l'usage, pendant la mise en œuvre, après l'usage. Et on voit bien comment, dans ce cadre-là, pour traiter cet objet nouveau, l'approche instrumentale peut être à nouveau féconde. Alors, ça donne une petite modification du schéma que j'ai montré tout à l'heure, mais qui apparaît décisive avec l'idée de communauté de pratique. Alors, on parle toujours d'interaction. De plus en plus, l'apprentissage n'est pas réduit à un individu ou un élève, mais à un ensemble d'individus. Mais il faut trouver aussi les mots pour décrire ce qui se passe. Il y a un ensemble de mots. On peut parler de... Bourdieu parle de sphère de pratique. Balachev a repris cette notion. On peut parler de communauté de pratique. L'idée de communauté de pratique, elle nous a semblé intéressante à cause des trois conditions qu'elle met en avant. Et d'abord, l'engagement actif dans une entreprise collective. Il y a la production d'un ensemble d'objets qui réifient des éléments de la pratique. Et on voit bien comment l'idée de ressources pédagogiques peut s'inscrire là, dans ce processus de réification. Et enfin, il y a le développement d'un répertoire partagé qui, à la fois, est une sorte de sédimentation de l'expérience de la communauté, et en même temps, un ressort pour l'activité de cette communauté. Et ça nous semble tout à fait indispensable dans notre conception du développement de systèmes d'instruments pour des individus et d'enrichissement des genèses individuelles. Ça nous semble tout à fait fructueux d'avoir cette idée de communauté de pratique qui met aussi en évidence les conditions pour. Dans beaucoup d'articles, on parle de communauté de pratique. Il y a beaucoup de communautés qui existent, de regroupements qui existent. De là à ce qu'il soit des communautés de pratique au sens précis que je viens de rappeler de Wenger, bon, il y a évidemment un grand pas. Alors, il y a peut-être un lien avec ce qu'on trouve dans le livre de Pierre Rabardel et Pierre Pastré, quand il parle de monde commun, quand il parle de saisie par un sujet de propriété du réel dans le cadre de son activité, de leur activité historiquement et socialement située. Il y a certainement des liens à établir entre des communautés de pratique et cette notion de monde commun. Enfin, ça sera une question que je pose déjà. Et puis, ça va donner un point de vue plus riche sur les questions de conception. Je modifie encore un peu mon dessin. Alors, tout à l'heure, il y avait un sujet. Maintenant, on ne peut pas envisager la conception des instruments sans voir un ensemble de sujets, un ensemble d'artefacts. Et ce point de vue qui va s'imposer, une conception des artefacts à la fois distribués entre une série d'individus ou d'instances, et en même temps qui se poursuit dans les usages. Et dans cette idée-là, il n'y a pas de communauté de concepteurs, de communauté d'usagers, mais une communauté qui concourt à différents niveaux, à différents moments, à la conception des artefacts au sein de communautés de pratique émergentes, parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait ces questions de réification, de répertoire, d'engagement commun, évidemment. Alors, j'en viens à une illustration qui montrera en même temps les problèmes que ça pose, et puis ça rejaillira sur ce qui a déjà été dit, en particulier sur les questions de traces. Donc, cette approche instrumentale des ressources pédagogiques, elle consiste à considérer les ressources pédagogiques comme des artefacts qui vont se constituer en instruments au sein de communautés de pratique émergentes. Alors, d'un côté, il y a une communauté de pratique ou des éléments de communauté de pratique qui vont se constituer dans ce processus de conception. Et puis, un vivier de ressources pédagogiques qui inclut scénario d'usage et compte-rendu d'expérimentation. Bon, le mot de vivier est évidemment important, plus que répertoire ou banque, hein, comme il est déjà introduit dans Ariadné, c'est l'idée de ressources qui vont vivre. Et puis, ce double processus dont on parlait tout à l'heure, bon, il apparaît clairement, le processus d'instrumentalisation par lequel cette communauté va concevoir à toutes les étapes les ressources de leur activité, et puis un processus d'instrumentation par lequel eh bien, ce vivier de ressources va influer sur les pratiques des enseignants impliqués. Et ça ne peut pas vivre indépendamment de dispositifs qui permettent la régulation, qui permettent la vie de ce double processus. Hein, lorsque je vais montrer, c'est un exemple de mise en œuvre dans un cadre très précis, dans une académie, il s'agit de l'Académie de Montpellier, et dans un dispositif de formation continue d'enseignants de mathématiques, avec un ensemble d'artefacts qui vont être considérés, puisqu'il s'agissait pour le dispositif d'aider les professeurs, d'être une sorte de facilitateur dans l'intégration de technologies diverses dans les classes, de logiciels de géométrie, bref. Donc il y a ces artefacts qui sont partie prenante de ce travail. Il y a aussi des artefacts propres au travail de cette communauté sur une plateforme de formation à distance. Bon, ce sont des artefacts qui, eux, sont déjà pour l'essentiel constitués. Puis il y a des artefacts à un autre niveau qui sont, très en amont de la conception. C'est les ressources qu'on va constituer ensemble. Et c'est le modèle même de ressources qui constitue un artefact particulier. Alors, au départ, les ressources disponibles, les ressources humaines, d'abord, c'est des communautés de pratique, la réelle, d'un institut de recherche ou enseignement des mathématiques, et puis un répertoire de ressources pédagogiques, et puis une équipe de recherche pluridisciplinaire. Là, parce que là, pour le coup, il y a un ensemble de choses qui sont en jeu, qui nécessitent des regards croisés d'informaticiens, de didacticiens. L'objectif de ce dispositif, dans le premier temps, ça va être la recherche d'un modèle de ressources, avec cette idée qu'un modèle est nécessaire pour la mutualisation, et qu'il est à construire autour du processus. Ces idées ont déjà été données ce matin. C'est-à-dire qu'on a des idées du processus, mais l'idée du résultat, de l'artefact essentiel qui va être quel modèle de ressources, on n'a pas vraiment d'idée préconçue. On veut qu'il naisse des usages, des moyens et des besoins d'une communauté. Et le processus de constitution de ce modèle, ça va être un processus itératif. On va analyser comment sont les ressources actuelles, quels freins ça pose pour une transmission d'une expérience. Puis une nouvelle structure va émerger. On va voir comment cette nouvelle structure permet de réécrire les anciennes ressources. On va voir aussi comment, avec une démarche descendante, comment les normes existantes, comment d'autres dispositifs fonctionnent. Et puis tout ceci va faire émerger, on l'espère, un modèle. Bon, puis il y a cet ensemble d'artefacts, je le disais déjà. Et l'idée que les processus d'instrumentalisation, que dans la première période, quand on avait affaire à des artefacts assez contraints, on ne voyait pas, là, ces processus vont être essentiels. Je disais qu'on ne les voyait pas parce que dans les ouvrages sur la conception, on voit bien que même dans des environnements extrêmement contraints, extrêmement complexes, si on veut bien regarder, ce processus d'instrumentalisation est essentiel. Bon. Mais là, quand on est en amont de la conception, il est essentiel et on ne peut pas le voir. Alors, je donne juste un élément de mise en œuvre que vous voyez de quoi il s'agit et que vous voyez comment ces communautés, en fait, quand on parle de communauté, il y a toujours un entrelacement de communautés. Quand on parle de... Il y a une cellule de formation qui s'est constituée, mais l'essentiel du travail s'est fait dans plusieurs thèmes. Des thèmes qui sont des thèmes liés à des environnements particuliers ou des thèmes de travail particuliers. Et c'est là qu'il y a au départ les vraies communautés de pratique. C'est des gens qui travaillent depuis longtemps ensemble, qui ont des objets communs, des ressources communes, des modèles de ressources communs. Et puis la cellule de formation qui réunit les formateurs, là c'est une communauté qui va se constituer, et qui va se constituer en mettant en commun des éléments de pratique et en constituant ce répertoire, ce vivier. Et puis il y a là-dedans une autre petite communauté, la communauté des pilotes, ce sont les enseignants-chercheurs, on était trois. Et cette communauté s'est constituée au départ. Un informaticien, c'est Michel Joab, une informaticienne a rejoint Dominiguin et moi, et puis on a aussi travaillé à constituer une communauté d'objets, des références partagées. Bon, il y a cette cellule de formation pour la régulation, la réflexion, l'évolution. Bon, donc je disais plusieurs thèmes de formation avec l'idée que pour faire émerger un modèle qui soit suffisamment résistant, il fallait le concevoir comme venant comme croisement et invariant une structure de ressources commune et qu'on va construire pour partager entre des thèmes différents. Alors, je montre simplement l'évolution du modèle pour que vous voyez quelques éléments. Je reviendrai sur le modèle final tout à l'heure. vont une conception ascendante et descendante à partir de l'existant et des normes, d'un modèle qui va être enrichi et validé par les usages. On part d'un modèle qui est extrêmement simple, qui est le modèle, quand vous regardez les ressources pédagogiques d'un répertoire donné, en tout cas pour les répertoires que je connais, pour le répertoire des IRM, c'est dans le meilleur des cas ça. Si vous avez une fiche élève, c'est-à-dire le travail qui va être donné pour les élèves, une fiche professeur qui donne un certain nombre d'éléments méthodologiques ou de recul didactique, bon, et puis une fiche de description qui permet, en quelques mots, d'inclure ce travail dans une banque de données. Il y a une banque de données qui existe en mathématiques, qui s'appelle PubliMath, à partir de critères extrêmement sommaires. Bon, dans le premier temps a fait émerger un premier modèle où des éléments essentiels sont apparus. Alors ce qu'on appelle le scénario d'usage, qui n'est pas tout à fait ce que Jean-Philippe appelle scénario tout à l'heure. Scénario d'usage, c'est une sorte de synopsis qui donne qui décrit la répartition des rôles, la répartition des artefacts pour les différentes phases de la situation. Mais ce qui a été apparu tout à fait essentiel, c'est l'adjonction dans cette ressource d'un compte-rendu d'expérimentation qui permet à chaque utilisateur de faire bénéficier la communauté de son usage propre. D'une fiche technique qui permet de distinguer ce qui est du ressort pédagogique, c'est-à-dire les intentions, ce qui est pour l'élève et le professeur, et ensuite de l'implémentation de ces intentions didactiques ou pédagogiques dans des environnements particuliers. Et enfin, sans entrer dans tous les détails, une fiche d'identification qui pose les problèmes des objectifs pédagogiques et de la contribution des artefacts de l'environnement à la réalisation de ces objectifs. C'est une première phase et ce modèle qui va agir, qui va avoir un effet sur les ressources construites, qui va permettre d'en construire d'autres, qui va permettre d'enrichir les ressources initiales. On va voir des ressources dans l'écriture même de la situation mathématique et dans les artefacts qui sont sollicités, les ressources vont beaucoup évoluer. Et c'est un modèle qui va continuer sa vie avec une sophistication, quelque chose de plus complet, deux points de vue que j'ai arrivé tout à l'heure. D'une part, l'adjonction d'un CV, puisque une ressource, c'est quelque chose de vivant. On travaille à des objets qui évoluent en fonction des usages et des besoins. Le CV d'une ressource qui permet de donner les étapes décisives de sa constitution, de son évolution, en justifiant à chaque fois pourquoi, au moment clé de son évolution, il y a eu telle ou telle modification de la ressource. Et puis, un aspect trace, bon, on est tout au début de ce travail, mais en essayant de donner des éléments bruts du travail des élèves ou du professeur, des éléments critiques de ce qui s'est passé dans la classe, qui permettent une exploitation ensuite plus riche qu'un compte-rendu d'expérimentation qui est déjà, lui, pour un professeur, très saturé là aussi de sa propre expérience et où la distance n'est pas toujours prise, où il est difficile de voir ce qui s'est passé réellement dans la classe. Donc essayer de différencier différentes strates de recueil d'usage et d'expérience dans une classe. Alors, deux éléments pour montrer la complexité de ce dispositif et de sa constitution, de son évolution. D'abord, un dispositif vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la complexité de ce dispositif? Alors, il y a une évolution dans ce dispositif à partir de ce que j'ai montré tout à l'heure. Bon, au départ, il y a un certain nombre d'outils qui sont classiques. Hein. Il y a une évolution par adjonction de nouveaux outils qui sont parus essentiels dans ce travail. Des baromètres, c'est-à-dire des sortes de questionnaires qui sont donnés aux différents acteurs du dispositif pour recueillir leur point de vue à des moments cruciaux de développement sur les artefacts, sur le dispositif, sur sa vie, sur les besoins et les problèmes. D'autres outils comme des chartes permettant de définir, comme dans toute communauté existantes, les droits et devoirs de chacun, mais le définir de façon souple, parce que ce sont des choses qui évoluent au fur et à mesure de la vie du dispositif. Et enfin, constituer des mémoires de travail pour chaque communauté, qui permettent de faire le point, qui permettent de se référer aux traces de l'activité commune, l'activité partagée. Ce qui est apparu, c'est bon, des choses qui sont bien classiques maintenant, à la nécessité du temps, d'un climat de confiance, de l'adhésion des acteurs, pour partager l'expérience, on parlait de traces, hein, passer d'une expérience individuelle avec ses propres traces à des éléments partagés, bon, ça nécessite une confiance, la régulation et la réflexivité, qui ne sont pas des choses communes, qui ne sont pas des choses communes dans des communautés de chercheurs toujours, mais pour des enseignants en activité, accepter de regarder sa propre pratique et de concevoir comme un enrichissement le fait que les autres regardent aussi sa propre pratique, ce n'est pas quelque chose de naturel, et qui se construit dans des petites communautés et sur le temps. Petit changement aussi dans la façon dont on a travaillé. On travaillait au départ avec une vingtaine d'enseignants qui partageaient leur expérience dans leurs 20 classes. On s'est rendu compte de la nécessité de travailler encore à des échelles plus réduites, avec des groupes de préparation de ressources qui travaillaient sur 2 ou 3 classes. Et c'est lié aussi à ces idées de conception. Plus le dispositif a avancé, plus on s'est rendu compte que pour que la conception puisse vraiment jouer, il fallait partir de ce qu'on appelait des germes de ressources, c'est-à-dire des ressources très élémentaires, parfois simplement une animation, une simulation ou une idée mathématique de problème, pour à partir de là initier le processus de conception de cet artefact ressource. Et alors qu'au départ on partait déjà d'objets assez construits, complexes, résistants, mais sur lesquels les enseignants n'avaient pas de prise, on s'est rendu compte que le processus était d'autant plus riche qu'on partait de très en amont dans la conception. Alors, des ressources vivantes, ça c'est l'état actuel, mais qui est quelque chose qui évolue. Ça rejoint ce que disait Jean-Philippe, hein, la condition, il apparaît vraiment que pour qu'il y ait développement des instruments, on a besoin d'artefacts flexibles qui puissent accompagner et intégrer de nouveaux usages. Que quand on parlait de scénarios, et je parlais plutôt pour nous de sorte de synopsis ou de script assez sommaire, et pour l'ensemble de la ressource, la flexibilité, c'est proposer aussi différents usages. Mais proposer différents usages, c'est aussi être capable d'appuyer ces différents usages sur des objectifs d'apprentissage. Et ces objectifs d'apprentissage, ils ne peuvent être, ils ne sont pas fixés a priori, ils s'appuient nécessairement, par exemple les variables didactiques, sur des analyses a priori, mais c'est aussi sur l'expérience des usagers. Donc c'est quelque chose qui va se nourrir des usages. Fournir des traces des usages antérieurs, il y a certainement différents niveaux d'analyse. On est parti de compte-rendu d'expérimentation, c'est-à-dire d'interroger l'activité ou l'expérience de l'usager d'un professeur après usage. On s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'il y ait sans doute des traces d'élèves, en essayant de détailler ce qu'on entendait par traces d'élèves, c'est quelque chose qui va évoluer. Puis aussi des traces de l'activité propre du professeur dans la classe. Bon, ça, c'est des choses, on est très loin d'une implémentation de cette réflexion informatique, mais on est au niveau de la réflexion didactique et pédagogique. Et puis, la nécessité pour s'approprier une ressource, de la voir non pas comme un produit fini, résultat d'une expérience accumulée, mais la voir comme quelque chose qui est en cours de genèse. Hein. L'idée que je disais tout à l'heure, cette genèse qui est un processus de formation, et pour bien situer cette ressource dans un processus, il est certainement très utile de voir son CV, et donc je ne le montre pas parce que je ne suis pas connecté, je donnerai les références d'un site où vous pouvez voir différents CV, où on montre quels sont les éléments de la ressource qui ont été touchés. Parfois, c'est le scénario d'usage, parfois la fiche élève, parfois la fiche professeur. La ressource a été parfois modifiée, mais la plupart du temps enrichie, avec une flexibilité qui est proposée, reposant sur une plus grande variété d'usages. Alors, je donne quelques éléments de travaux en cours qui vont commencer sur cette lancée. Ou accompagnant ceci, il y a une analyse des ressources en ligne qui a été réalisée par l'IREM de Paris 7 qui est tout à fait intéressante parce que à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'analyses de ce genre elle a été commandée par la région Île-de-France qui s'intéressait à la pertinence pédagogique des ressources que les établissements achètent. Donc ils ont analysé les différents dispositifs proposés du point de vue de la souplesse des usages proposés et aussi des usages réels. Hein. Il est tout à fait intéressant de voir à ce niveau-là, c'était en 2003 que l'analyse a été faite, à la fois la grande pauvreté des ressources qui sont proposées par des sociétés de services, hein, c'est-à-dire il y a très peu d'animation, très peu de parties d'exploitation des potentialités de l'environnement. En même temps, très peu de choses est dit sur les usages possibles, c'est-à-dire c'est uniquement la plupart du temps des ressources pour les élèves qui sont données, à charge du professeur à voir comment ceci peut s'implanter dans la classe. Et quand un guide d'usage est donné, c'est un guide qui est extrêmement strict, figé. Et l'analyse de l'utilisation des ressources montre en général que quand un professeur utilise ses ressources, c'est le contraire qu'il fait. Enfin, il n'utilise pas du tout ce qui est proposé. Donc l'existant est quand même assez pauvre. Il y a un travail qui est fait par Moustapha Sokhna, ici présent au Sénégal, qui a pris le modèle de ressources auquel on est arrivé, et qui est en train de voir comment il va évoluer. Il évolue dans de nouveaux contextes. Il s'agit de formation continue distante de professeurs vacataires au Sénégal. Il y a une nouvelle expérimentation qui va commencer, qui nous paraît très, très intéressante, entre l'INRP et une société de calculatrices. Il s'agit d'expérimenter une nouvelle plateforme mathématique, mais avant la phase de commercialisation, c'est-à-dire un an avant la phase de commercialisation, à un niveau extrêmement large, je dirais, pour 500 élèves environ, une vingtaine de classes. Et l'intérêt aussi, c'est que pour cette nouvelle plateforme, il y a tout un travail qui est fait sur la... ce qui est nouveau pour des calculatrices, sur la récupération des traces par l'élève des traces de son travail, avec une forme de document type diapositif PowerPoint, si vous voulez, où les différentes étapes, l'élève peut annoter son propre travail. Donc là, il y a un travail qui nous intéresse, surtout qui est en amont de la phase de commercialisation, et donc les prescriptions ou les remarques d'usage qu'on va donner se feront en interaction avec les concepteurs initiaux du projet. Bon, puis au niveau de l'INRP, il y a ce développement d'un site interactif autour des recherches sur l'enseignement des mathématiques. Et là aussi, il y a à la fois une réflexion sur quelles ressources on va mettre dans ce site, mais sur le modèle même de site, une réflexion qui se donnait pendant un an dans une communauté assez vaste pour expérimenter et puis au fur et à mesure voir comment les choses peuvent évoluer. Et on s'aperçoit aussi que dans la communauté de chercheurs, ces choses-là ne sont pas évidentes. L'idée d'un partage du travail. Par exemple, justement, à propos du livre de Pierre Rabardel et Pierre Pastré, j'ai proposé sur ce site une note de lecture et en la proposant à une quinzaine de chercheurs sous la forme collaborative. Donc voilà un premier germe de... Voilà ce que je retire de la lecture de ce livre. Cette note de lecture doit ensuite être publiée dans la revue Recherche en didactique des mathématiques. On peut en faire un objet commun. Donc il y a un forum et puis on discute ensemble et en ligne cette note de lecture. Bon, ça n'a pas marché. On a fait cette discussion à deux avec Dominique, parce que majoritairement dans la communauté de recherche, cette idée, ce qu'on produit, les articles, c'est quelque chose qui est partagé au sein d'une communauté restreinte, et l'idée que ça peut s'enrichir d'apports autres est une idée qui reste à construire. Bon, comme prolongement théorique, je vois trois chantiers qui me concernent, qui me semblent tout à fait fructueux. Il y a le travail qui était engagé dans le dernier colloque scénarisation de l'INRP, qui va donner lieu à des actes coordonnés par Hélène et Jean-Philippe. Et puis, il y aura peut-être une communauté qui se constitue. Ça me semble très intéressant parce que là, à partir de ces objets-là, des scénarios, on est vraiment dans un domaine où cette approche instrumentale est tout à fait fructueuse. Il y a un travail, ce travail d'intégration théorique de l'approche instrumentale, mais avec d'autres approches didactiques, écologiques, très présente dans la communauté didactique des mathématiques, qui est un travail qu'on continue avec Dominique. Et il se fait dans un contexte un peu plus large qu'a évoqué Jean-Philippe, d'un ouvrage qui doit paraître chez Hermès en fin d'année ou en année prochaine, où on regarde les environnements informatisés et les ressources numériques, et on s'intéresse aux questions de conception et d'usage avec des regards croisés issus de la communauté informatique, didactique et de sciences de l'éducation. C'est un ouvrage d'ailleurs pour lequel on a demandé une préface à Pierre. Il ne peut plus se défiler. C'est fait publiquement. Bon, puis il y a quelques références théoriques qui tournent autour de ces idées, qui analysent des expériences passées à la lumière de cette approche et qui projettent un certain nombre de problèmes théoriques que posent ces confrontations de cadres. Voilà. Il y a 5 minutes de questions.
Merci Luc. Comme tu le dis, 5 minutes de questions, un tout petit peu plus éventuellement, mais au détriment de votre temps de pause et de repas. Donc la parole est à vous.
Martin Costa de l'Université de Genève. Je voudrais poser la question, où est la connaissance dans ce modèle-là d'évolution des communautés de pratiques autour des scénarios? Par exemple, quel est le rôle de la connaissance didactique des enseignants et comment cette connaissance est mise en question par les artefacts même, et comment cette connaissance doit évoluer nécessairement par l'interaction avec les artefacts. Et cette question revient aussi pour les autres expositions, dans lesquelles on voyait que la connaissance était trop figée. Donc la connaissance était au centre de la conception de tout, mais la connaissance n'évoluait pas. Comment la connaissance se met en question par l'existence même des artefacts et par leur utilisation, et comment elle évolue, parce qu'elle doit... Elle doit se transformer nécessairement par l'utilisation de ces artefacts. Et notamment ici, dans le cas des connaissances didactiques, elle doit se transformer. Comment est prise en compte cette transformation de la connaissance même?
Alors, bon, je dirais que la connaissance, elle est dense partout, dans tout ce dispositif. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on entend par connaissance. Est-ce que c'est la connaissance mathématique du professeur? Est-ce que ce sont les connaissances des élèves que l'on veut construire? Est-ce que c'est la connaissance didactique? Est-ce que c'est la connaissance plus largement, je dirais, de sciences éducation sur la construction des apprentissages? Alors, je dirais qu'elle est dense partout, déjà au niveau de la connaissance du professeur, de ce qu'il faut enseigner, et je dirais du professeur au sens institutionnel. Parce que quand on va concevoir des situations, quand on va concevoir des programmes, cette conception, elle se fait en relation avec les environnements. On ne va pas concevoir aujourd'hui des situations en algèbre, je dirais en analyse, maintenant qu'on peut avoir des représentations graphiques directes qu'il y a 20 ans. D'ailleurs, les programmes ont changé, la représentation graphique n'a plus le même statut. Donc, dans la conception des situations, la connaissance est partout présente. Dans la conception des scénarios, c'est-à-dire comment on organise l'enseignement, ben, cette organisation, la façon dont elle va être... La situation va être orchestrée dans un environnement donné. Elle dépend aussi de la connaissance qu'on veut construire à tous les niveaux. Quand on va organiser les scénarios et qu'on va dire quelles sont les différentes variantes du scénario, ça, c'était tout à fait intéressant l'expérience de la communauté que je connais, la communauté de l'IREM de Montpellier, parce que quand on donne sa propre expérience, qu'on la livre comme ça, bon, on dit, ben, j'ai fait ça dans ma classe, ça a bien marché. On ne questionne pas la pertinence didactique. Pourquoi on a mis A égale 3 et pas A égale 3,2 dans le problème? Mais quand cette connaissance ensuite donne lieu à un scénario qui va être partagé, alors là, on va questionner les différentes variables du problème. On va voir qu'est-ce que ça donne comme effet, quel milieu d'apprentissage ça questionne, ça organise. Et là, c'est des connaissances didactiques qui se construisent chez les professeurs parties prenantes qui sont tout à fait extraordinaires. La connaissance ensuite, elle est où? Mais elle est dans les traces. Parce que comment on recueille les traces et comment on les analyse? Sinon, avec un point de vue didactique. Et là, cette connaissance aussi est à construire. Et quand le professeur, lui, est seul dans sa classe, bon, les traces, bon, vous savez comment ça se passe dans les classes, j'imagine. Les traces, c'est les interrogations écrites qu'on va donner, c'est les devoirs, bon, c'est une charge supplémentaire, c'est pour remplir les bulletins. Bon, là, dans la communauté qu'on a vue, on a vu quelles traces prendre et comment les analyser. Ben là, on va s'intéresser beaucoup plus à quels ont été les apprentissages réels, la notion de chaîne des élèves, quels sont... De quelle connaissance il témoigne? C'est pas vrai ou faux, il y a une connaissance qui est construite. Qu'est-ce qu'on en fait de cette connaissance? Donc dans les traces, à tout moment, cette connaissance, elle est. Puis la connaissance à un niveau supérieur, ce qui est fait là, enfin le travail sur les ressources, est un travail qui questionne là la communauté didactique. Et on pourrait tout à fait imaginer des dispositifs comme cela qui fonctionnent avec des didacticiens, ce serait tout à fait intéressant. Ce travail de suivi d'une ressource... Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la prochaine école d'été de didactique, c'est en 2007. Il y a eu une première école d'été en 1999 qui s'est posé le problème de l'intégration des instruments. Et Pierre Rabardel était venu. La prochaine école d'été, en 2007, va se poser le problème des documents. Qu'est-ce qu'un document pour l'enseignement? Et là, c'est une question théorique qui est posée à la communauté de didactique. Et il me semble que le travail qui est fait là est un des éléments importants qui permettra de construire d'autres connaissances théoriques dans cette communauté. Jean-Dominique, si tu veux.
Jean-Pierre David, du CLIP CIMAC de Grenoble. Donc, j'avais assisté déjà à ton premier exposé au colloque scénario, Et j'avais un petit peu eu du mal à comprendre ce que tu entends par ressources pédagogiques. Et là, dans ton deuxième exposé, je comprends mieux, mais il me semble qu'il reste quand même une ambiguïté. Parce qu'il y a, vers la fin de ton exposé, tu as parlé des ressources qui sont disponibles pour l'apprentissage et qui sont mal documentées, où il n'y a pas d'explication d'utilisation. Et puis, tu parles aussi de ressources pédagogiques pour l'enseignant, qui sont un ensemble d'informations qui accompagnent la ressource pour l'élève au niveau de l'approche de l'IREM. Et bon, je connais bien l'IREM pour y avoir participé dans ma jeunesse. Effectivement, il y a une richesse de réflexion qui est recueillie dans des fiches élèves, fiches professeurs, etc. Et j'ai l'impression que, si tu veux, tu as fait référence au vivier de connaissances Ariane Ney. Donc, pour faire le parallèle avec ce vivier de connaissances, dans le vivier de connaissances Ariane Ney, il y a d'une part les ressources pédagogiques qui sont des ressources pour l'élève, et d'autre part les métadonnées qui décrivent ces ressources et qui sont des informations pour l'utilisateur de la ressource. Donc j'ai l'impression que, peut-être j'ai encore mal compris, mais tu utilises le même mot à deux niveaux de sens. Voilà. Quel est l'instrument pour les élèves? Alors, comment il s'appelle? Oui, mais les élèves, ils vont utiliser Cabri, ils vont utiliser un artefact qui est cité quand même. Voilà, donc il y a deux fois. Enfin, je pense que dans le sens commun, je crois qu'il y a la ressource pour l'élève et la ressource pour le professeur. Il y a deux niveaux d'informations qui sont l'une englobant l'utilisation de l'autre. Donc j'ai l'impression qu'utiliser le même mot par rapport au sens commun qu'il a dans tout le e-learning, ça rend la compréhension difficile.
Peut-être que le travail en cours dans la communauté en germe sur la scénarisation débouchera sur un mot, une expression qui est satisfaisante pour tout le monde et non ambiguë.
J'ai une autre question, mais peut-être que je te la poserai pendant le repas, à moins qu'il n'y ait pas d'autres questions.
Arnaud Siméon de Lyon 2. Moi, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que depuis le début, dès la première communication sur les traces d'ailleurs, je trouve qu'on confond beaucoup l'usage qui peut être fait des traces ou des ressources par les apprenants, de ce qui peut être fait par les enseignants. On fait comme si finalement les traces étaient équivalentes et allaient être exploitées de la même manière ou sans forcément d'apprentissage ou d'initiation préalable. Et ça me perturbe beaucoup, parce que je me dis, par exemple, bon, un enseignant, on peut imaginer qu'il ait la flexibilité, ou enfin qu'il puisse appréhender ces environnements complexes sans forcément trop de difficultés. Et encore, mais alors un apprenant, je me dis qu'il faut vraiment des apprenants de luxe pour pouvoir utiliser ces ressources ou bien ces traces sans forcément d'apprentissage ou d'explicitation préalable. Parce que personnellement, moi j'enseigne à l'université, mais mes étudiants de licence, des traces, on peut leur en donner autant qu'on veut, je pense qu'ils ne seront pas exploités. Alors peut-être que les étudiants de l'ENS y arriveront, Mais ceux de l'université, j'ai un peu de mal à l'imaginer.
Bon, je ne parle pas de traces pour les élèves.
Non, mais justement, j'ai...
Non, mais si tu veux, même pour les enseignants, ce n'est pas du tout évident d'utiliser les traces. C'est-à-dire, c'est pas, cette façon de travailler qui est une façon réflexive, est une façon qui se construit. C'est le résultat d'une évolution des pratiques professionnelles pour les élèves.
Ah, mais... Complètement. C'est pour ça que j'ai, enfin, dans cette communication-là, j'ai assez apprécié qu'on insiste bien que c'est sur le fait que ces ressources étaient utilisées par les enseignants. Alors que sur les deux précédentes, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiguïté sur finalement qui allait exploiter ces ressources, vers qui on allait pouvoir, enfin ressources en général, hein, qu'on puisse appeler sa trace. Enfin, je fais pas spécialement de distinction. J'ai pas assez de compétences dans le domaine pour le faire. Mais pour moi, c'est pas du tout la même chose. La cible, enfin l'utilisateur final de ces traces définissent en eux-mêmes le type de traces qu'on va pouvoir produire. Pour moi, c'est d'une grande évidence. Enfin, j'imagine pas du tout qu'une ressource pédagogique puisse être utile, enfin une ressource puisse être utilisée de la même manière par un enseignant et par un apprenant. Surtout. Enfin, le type d'apprenant reste encore à définir, bien sûr, hein, parce que des apprenants, il y en a vraiment de différents niveaux.
Peut-être, ça n'a pas l'air de marcher, ça. Bon, c'est ça. Bon, je vais peut-être reprendre juste la parole deux minutes. Bah, je suis mal expliqué, alors, hein, parce que vous avez totalement raison. Complètement, quoi, archi-complètement. C'est-à-dire que dans l'exposé, je visais l'apprenant. Alors j'ai insisté, hein, sur le fait que ce n'était pas gagné, que le fait qu'il y ait une trace à disposition n'était pas forcément miraculeux, mais que par contre, il y avait là une opportunité d'avoir un support de facilitation, d'instrumentalisation. C'est-à-dire que je ne déclare pas ici, ça y est, j'ai vu Fatima dans la grotte, hein, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une façon de travailler qu'il faut imaginer à partir de maintenant. C'est un sujet de recherche au sens propre du terme. Et je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'une trace ne serait pas utilisable par des élèves autres que l'ENS. Je propose presque l'inverse.
Non, mais c'est pas...
Bon, c'est-à-dire que... C'est indépendamment du rapport qu'on pourrait établir entre les gens en fonction des écoles dont ils sortent, je pense que ça peut servir dès l'instant où c'est utile, tout bêtement. C'est-à-dire que si le fait de voir défiler une trace ne peut servir à rien par rapport à l'activité dans laquelle je suis, bah, je vais faire switch off de cette trace parce qu'elle me gêne plutôt qu'autre chose. C'est évident. Ça veut dire qu'il faut trouver et donner la capacité à quelqu'un de s'approprier cette trace exactement comme les autres outils qu'il a à sa disposition. Et que c'est une question ouverte. On a parlé de la visualisation et elle est, évidemment, c'est la clé, hein, à un moment donné. De façon à ce que je puisse tirer profit de cela pour argumenter, pour me justifier, par exemple. Si, par exemple, j'ai dans les consignes de devoir expliquer comment je suis arrivé à un résultat et que j'ai cette trace à ma disposition, je vais pouvoir, ou non d'ailleurs, la cacher au prof parce que pour lui dire que j'ai pompé sur le voisin, ou l'inverse, en tirer profit pour pouvoir reconstruire ou bien retrouver le processus qui m'a amené à quelque chose. Je prends un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que s'il y a un usage avec une utilité évidente au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à avoir de formation avant, alors là je suis d'accord avec vous, si l'usage de la trace nécessite d'avoir une formation sur l'usage de la trace, on est mal, quoi. Et c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une ce que j'ai insisté là-dessus, sur la spontanéité de la prise en main de ce genre d'outils. Alors je crois que ça se passe pas trop mal, parce que à chaque fois que je fais quelque chose puis que je vois bouger, c'est évident qu'il y a un rapport, quoi. Et qu'il y a quelque chose qui est une incitation à l'appropriation. Mais maintenant c'était un, comment dire, j'ai hâte de voir ce qui se passerait lorsqu'on va se mettre en situation réelle dans laquelle il n'y a pas un facilitateur déjà associé. Ce qu'on a fait dans nos travaux, c'est qu'on utilise des traces, mais avec des facilitateurs qui sont déjà là pour faire des assistances à la résolution de problèmes. Donc évidemment, les gens voient tout de suite à quoi ça peut servir et ça a une utilité directe. Dès l'instant où il y a une nécessité d'appropriation, je demande à voir comment ça va se passer. Là, vous avez raison.
Non, puis surtout avec des publics diversifiés. Enfin, moi, j'insiste là-dessus. Hein,
bien sûr.
Parce que je ne sais pas sur quel type de public vous avez expérimenté ce type d'outils. Mais si c'est avec des étudiants en informatique, bon...
Non, là, c'est forcément... avec des... Non, non, pas avec des informatiques, à mon avis. Sont... Non, les publics, enfin, le public sur lequel, pour l'instant, on a travaillé, par exemple, c'est les étudiants de terminale. Par exemple, un exemple.
Parce que pour moi, il n'y a pas du tout d'évidence à faire un lien entre la trace et une résolution de problème.
D'accord.
Hein,
complètement d'accord.
Pas du tout. Hein.
Je pense qu'on va reporter la suite des questions à cet après-midi. Donc, on va tous vous retrouver ici à 14h pour la conférence de Pierre Rabardel qui sera suivie d'un long temps d'échanges et de discussions. Donc, à tout à l'heure.